chaque jour dans la liturgie, le prêtre dit « car aujourd'hui le Christ est ressuscité ». Il ne dit pas « hier, il y a quelques jours en arrière », c'est « aujourd'hui le Christ est ressuscité ». On se le dit, c'est le cœur de notre foi, mais on voit bien les apôtres eux-mêmes, la difficulté qu'ils ont eue à accueillir ce grand mystère. Quand les femmes, Marie-Madeleine et les autres, sont venues leur raconter que le Christ est ressuscité, ils ont dit « les pauvres, elles ont pété les plombs ». Le mot grec qui est utilisé, c'est l'hérologoi, et c'est le même mot qu'on utilise pour expliquer l'état d'une personne qui a 3 pour 1000 d'alcool dans le sang à 3 heures du matin, quand il fait une théorie, vous voyez. Nouvelle fondamentale de notre foi, qui est la sainte résurrection du rédempteur du genre humain, on a utilisé un mot qui était assez particulier. Voilà, le Saint-Père nous a fait un beau cadeau. Plutôt que de recevoir des cadeaux, lui, il nous fait des cadeaux à nous. Il nous a fait deux grands cadeaux pour le 25e anniversaire de son pontificat. Le premier, c'était cette lettre sur le rosaire, avec l'institution des mystères lumineux, et puis appelant toute l'Église à célébrer, à contempler le visage du Christ avec la Vierge Marie. C'était le grand cadeau qu'il a fait, en nous disant que le cœur de notre foi, c'était le visage du Christ qu'il fallait contempler, mais qu'on pouvait le faire de manière extraordinaire avec Marie dans la grande tradition d'Église et dans le renouveau qu'il apporte avec les mystères lumineux. Et deuxième cadeau qu'il nous a fait en lien immédiat avec celui-ci, eh bien c'est l'Eucharistie. D'ailleurs, il le dit dans cette magnifique encyclique, lettre encyclique sur l'Eucharistie, que si le renouveau de l'Église dans ce 21e siècle sera non pas de faire des programmes pastoraux nouveaux, des théories nouvelles à la scrogneugneux, mais je sais pas quoi, que le renouveau se passera véritablement dans la contemplation du visage du Christ, de manière toujours étonnée, hein, émerveillée, adorante, et bien qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour contempler le visage du Christ que de le faire au Saint-Sacrement de l'autel. Et que finalement, d'écrire une lettre sur l'Eucharistie, c'est simplement prolonger ou actualiser ou rendre vivant cet appel à contempler le visage du Christ avec Marie dans l'Église. Une lettre qui est parue jeudi saint, et j'ai encore eu la confirmation aujourd'hui d'une personne qui connaît bien le Saint-Père, qui me disait que très longtemps qu'il attendait de publier un texte comme ça. Ça lui avait tellement réjoui le cœur de pouvoir offrir à l'Église cette lettre sur l'Eucharistie. Ça fait quelque temps qu'on dit que tous les textes que fait le Saint-Père sont ses testaments, mais je crois qu'on peut dire que c'est ça, dans la mesure où le testament n'est peut-être pas la dernière chose que l'on fait dans notre vie, mais c'est ce qu'on donne de plus précieux et de ce qui a marqué toute la vie d'une personne. Alors dans ce sens-là, vraiment, c'est un testament du Saint-Père, parce qu'il le dit lui-même à plusieurs reprises. C'est quand il rédige des textes et qu'il signe des textes, il y a une série de personnes qui collaborent avec le Saint-Père. Le Saint-Père donne une ligne directrice, parle avec les gens. Ensuite, il y a une personne qui rédige le texte, à part les toutes premières encycliques où c'est vraiment Jean-Paul II qui avait déjà dans sa valise en venant de Pologne et qui les a publiées comme ça, sous le nom plus de Karol Wojtyła, mais sous le nom de Jean-Paul II. Mais pour les autres textes, il y a tout un travail d'élaboration qui se fait. Saint-Père corrige, retravaille le texte, remodifie, voilà. Certaines fois, on voit vraiment très fortement la marque du Saint-Père, et puis parfois, elle est plus discrète quant à la rédaction du texte, non pas quant au contenu, où là vraiment c'est de lui. Et dans ce texte-là, on voit vraiment sa main, y compris dans la rédaction du texte. À plusieurs reprises, il nous partage des célébrations de l'Eucharistie, dit-il. Quand je pense à l'Eucharistie, quand je regarde ma vie de prêtre, d'évêque, de successeur de Pierre, je me rappelle tous ces lieux où j'ai célébré la messe, depuis Niegowitz. Je n'assure pas la prononciation, mais c'est quelque chose comme ça. Saint-Florian à Cracovie, puis ensuite à Wawel, et puis à Saint-Pierre, et puis dans tant d'endroits, et puis sur des petits hôtels en montagne, bâtis avec des pierres comme ça, et dans des stades, et dans des villes, et partout. Voilà, partout j'ai célébré la messe. Quand je pense à tout ça, je pense à la dimension cosmique de l'Eucharistie. À un autre moment encore, quand il rappellera l'adoration eucharistique, il nous dira, mais voyez-vous, pour moi, je me suis souvent devant le Saint-Sacrement exposé. Et c'est là que j'ai reçu les plus grandes grâces de ma vie, exposé aux rayons du Christ. Il nous le dit, vous savez, maintenant, arrivé à l'âge où j'en suis, permettez au vieux pape que je suis de vous faire quelques petites confidences quand même sur ce qui m'a fait vivre. Il le fait d'autant plus que, à plusieurs reprises également dans ce texte, il nous appelle à non pas seulement avoir une idée de ce qu'est l'Eucharistie, mais à voir les amis de Dieu vivre de l'Eucharistie. Et ces amis de Dieu, ce sont les saints. À plusieurs reprises, il rappelle la nécessité de voir comment les saints ont vécu l'Eucharistie. Il cite à un moment donné saint Alphonse de Ligorie, qui adorait le Saint-Sacrement et qui disait « C'est la plus grande chose que l'on puisse faire sur la terre après avoir reçu le sacrement, c'est d'adorer Jésus au Saint-Sacrement de l'autel. »